CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui dans le mag, je reçois Daniel Lodo qui est président de l'association Cordae à Talvero. Je vous reçois car un très beau projet est en cours de réalisation dans la vallée du Gijou, un projet autour de la musique. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, monsieur Lodo?
Oui, il n'y a pas de problème. Bon, d'abord, je ne suis pas président de la Cordae à Talvero, je ne suis qu'un modeste directeur bénévole. Mais bon, c'est pas grave.
Excusez-moi.
On est installé donc à Cordes dans le département du Tarn, évidemment, puis notre association rayonne un petit peu partout. Et ça fait 40 ans, même plus de 40 ans maintenant que l'association existe et qu'elle pratique donc des recherches de terrain et en archives un petit peu partout en Occitanie. Donc on recueille la mémoire des habitants. Les chansons, les danses, les contes, les croyances populaires, tout ce qu'on peut imaginer de ce patrimoine symbolique qui se transmet de génération en génération. Symbolique, mais pas uniquement, puisqu'on recueille aussi, et on a recueilli des photos et également des instruments de musique. Donc l'association se retrouve avec tout un tas d'instruments typiques du département du Tarn et d'autres régions. Quand je dis typique du département du Tarn, je fais allusion notamment aux voix des monts de la Cône, qu'on appelle le Graille.
Oui, j'allais dire le Graille, voilà.
Voilà, le Graille. Ou aussi les cornemuses de nos montagnes, du Sidorbe, de la montagne noire, de la montagne d'Anglès, qu'on appelle en occitan la Carabre. Et puis d'autres instruments comme les fifres, les ocarinas, qu'on appelle cucut en occitan, bon, des accordéons, plein d'instruments que les gens sur le terrain nous ont confiés, on nous ont vendu et qu'on veut mettre à la disposition du public. Voilà, et on cherche depuis plusieurs années maintenant un lieu qui pourrait être dédié à cette valorisation. Parce que ce qu'on veut faire, c'est mettre des instruments, mais que ce soit pas uniquement un musée, dans le sens où on l'entend habituellement, mais que ce soit un lieu d'animation, un lieu de vie autour des instruments, mais aussi des témoignages oraux qu'on a recueillis, des photos, des objets, etc. Et il se trouve que dans la vallée du Gijou, quand on a parlé un petit peu avec les élus, notamment des communes de Vabre et de la Case, on a vu qu'eux aussi ils seraient intéressés par mettre en valeur leur territoire par un projet un petit peu important qui pourrait attirer du monde, à la fois du public local, mais aussi du public d'autres régions de France et du public étranger, à la fois des chercheurs, mais aussi des amateurs de musique ou des curieux tout simplement, mais aussi à la fois des adultes et des enfants. Donc on a parlé avec ces deux communes, puis on s'est rendu compte qu'il y avait le château de la Case. Il y a un très beau château qui a été restauré depuis plusieurs années maintenant par les municipalités qui se sont succédées. La Case qui est un peu dans les répartitions qui se sont faites au niveau des communautés de communes de la région, qui est un peu chargée de mettre en valeur la musique, en tout cas qui est intéressée par la musique, un petit peu comme Burlatz.
Oui.
Et qui organise déjà depuis quelque temps des concerts dans le château, des spectacles, des conférences, des expositions, voilà, qui auraient une partie du château à mettre à la disposition de ce projet.
Et du coup, c'était un écrin tout trouvé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même un certain écho aussi par rapport à l'histoire de la vallée du Gijou, qui est vraiment un lieu où il y a eu une histoire musicale occitane. Hein, parce que vous le disiez, après on parlait du jeu de graille. Alors bon, voilà, moi je le dis pas très bien, je m'en excuse. Mais il y avait aussi l'andou, hein, pas très loin. Il y avait aussi un très beau Joseph Mahou qui fabriquait des instruments, voilà. Voilà, qui se trouvait à Vabre.
Voilà, c'est un lieu qui, voilà, le fait de mettre ce lieu, cet espace en place dans cette vallée, c'est pas anodin, puisqu'il y a plein de, voilà, au regard de l'histoire, il y a plein de choses qui font que ça a vraiment du sens d'implanter ce lieu là dans cette vallée. Donc, comme vous le disiez, il y a l'histoire du hautbois, du graille, C'est un hautbois qui existait dans tout le département du Tarn, quand on regarde les archives jusqu'à la Révolution française, même au-delà, on trouvait des hautbois partout, de différentes tailles, mais cet instrument s'est maintenu pour des raisons différentes, s'est maintenu dans cette région, donc autour de Morodon-l'Abessonnier, Vabre, La Case, donc tout ce coin, jusqu'à la Cône, même au-delà, et il y en a remarqué aussi qu'entre Morodon Vabre, c'est là qu'on trouvait le plus de facteurs de ce type d'instruments et pas que, et notamment donc le plus important d'entre eux, qui s'appelait Joseph Maus. Alors, Joseph Maus, il était né en 1860 dans la Montagne Noire, donc à Cuxac, Cabardès, dans l'Aude. Il s'était engagé dans l'armée, il a fait ses classes militaires, en grande partie sur Castres, où il a rencontré des musiciens de Vabre, puisqu'il y avait déjà, Vabre était un lieu important au niveau de la musique. Il s'est marié à Vabre avec une Vabraise, il s'est installé à Vabre, et dès qu'on regarde quand on examine les annuaires de l'époque où sont portés l'ensemble des artisans de Vabre, il est marqué sculpteur, et parfois aussi facteur d'instruments. Sculpteur parce qu'il fabriquait, en plus des instruments de musique, tout un tas d'objets qu'il vendait un petit peu partout dans les animations musicales qu'il
animait.
Il était en même temps musicien.
D'accord.
Ça c'est Joseph Maus. En plus, Joseph Maus fabriquait d'autres instruments. Il faisait aussi des clarinettes, il faisait aussi des cornemuses. Alors même si la cornemuse s'arrête un petit peu, l'air de la cornemuse s'arrêtait un petit peu au-dessus de Vabre, les joueurs les plus proches étaient du côté de Ferrières, bon c'est pas très loin.
Non.
Mais donc, Joseph Maus étant né de la Montagne Noire, donc en plein dans l'air de l'implantation de cet instrument, il en construisait aussi évidemment. Donc, il fabriquait aussi des fifres, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'autres types d'instruments. Ensuite, Vabre, c'était un lieu où il y a eu une des premières sociétés musicales de la montagne. Donc, sociétés musicales, vous savez, ce sont ces sociétés qui se sont créées à partir des années 1840-1850, comme les cliques, les harmonies, les fanfares, les estudiantinas, donc, tout ce type de sociétés. Et Vabre a eu sa première, a connu une des premières sociétés de la montagne qui s'appelle les Enfants de Vabre et qui existe toujours aujourd'hui. Et ensuite, donc, comme vous le disiez, effectivement, c'est aussi le pays de l'Andou.
Eh oui, le chansonnier.
Le chansonnier qui était né entre Saint-Pierre et la Case, exactement sur la commune de Saint-Pierre, à Vialel. Mais dans la famille, était originaire de cette région de la montagne. Donc il y avait à la fois le père Armand qui était né en 1860 lui aussi, qui était le chansonnier qui faisait des chansons, et puis son fils qui était né en 1908 et que j'ai eu la chance de rencontrer à la fin de sa vie, qui colportait les chansons de son père, qui passait de village en village, de ferme en ferme dans toute cette région de la montagne, puisqu'il allait jusqu'à Belmont-sur-Ance, dans l'Aveyron. Il allait jusqu'à Murat, il allait jusqu'à Bar, la Corne évidemment, tous ces coins-là. Il allait jusqu'à la Crouzette, il allait jusqu'à Castelnau de Brassac, presque jusqu'aux portes d'Anglès là-bas, puis il descendait dans la plaine jusqu'à Réalmont, un petit peu partout, en chantant ses chansons. Il arrivait en disant « Yo, ça lui canta, vous pouvez canter une canso ». Il se mettait à chanter « La otrezzona va breve, c'eri, beni, incare fumaire, penseri, muri ». Voilà, des chansons que son père avait fait sur le petit train, d'autres chansons sur un avion qui était tombé en panne au-dessus du Bousquet, là, Saint-Pierre-de-Trévisy, des chansons sur des crimes, des chansons sur des gens de l'endroit, des chansons sur les premières emballeuses de fourrage quand elles sont arrivées. Voilà, il faisait tout un tas de chansons sur les nouveautés, sur les gens de son histoire. Et ce Landou qui était considéré, en tout cas le fils, même un peu le père, comme des marginaux.
Mm-hmm.
Mais quand on interroge aujourd'hui les gens de la montagne, quand on leur demande citez-nous un personnage important de votre région, ils vont parler de Landou.
CFM Lacaune, le mag.
Merci d'être à l'écoute du MAG sur CFM Lacon. On continue de découvrir le projet muséal musical qui devrait se monter au château de la Case, sur la commune donc de la Case, dans la vallée du Gijou, avec la municipalité, bien sûr, la municipalité aussi de Vabre et l'association Corda e la Talvera qui se trouve donc à Cordes. Et je suis avec son directeur bénévole, Daniel Lodo. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, si vous voulez écouter la première partie de l'émission, c'est sur cfmradio.fr. Alors, on continue, on a parlé bien sûr de l'espace muséal, du lien historique aussi entre la musique occitane, la musique traditionnelle et la vallée du Gijou. On continue avec cette question, c'est vraiment un projet collectif, on l'a dit, avec la commune de la Case et la commune de Vabre, mais aussi c'est un projet qui se veut proche des habitants et avec construit avec l'aide des habitants de la vallée.
Oui, donc effectivement c'est un projet collectif qui intéresse la mairie de la Case, celle de Vabre, où il y aura aussi une partie de l'espace, certainement des expositions temporaires, bon, c'est encore
à définir.
En position. Et c'est constant, puisque nous, on a toujours considéré que nos recherches, que les objets qu'on a pu trouver sur le terrain appartenaient à l'ensemble de la collectivité, donc aussi aux collectivités qui nous financent, mais aussi donc un projet collectif, parce qu'on veut que toute la population du département du Tarn soit partie prenante de ce projet. Donc déjà les associations qui s'occupent de musique, comme la Date du Tarn, comme le Conservatoire de musique, comme la Fédération des sociétés musicales, toutes les associations qui s'occupent de musique traditionnelle et même de musique traditionnelle et même d'occitan. Et puis un projet collectif, parce que même si on a suffisamment d'instruments et de photos, de matières pour mettre en place le lieu. En fait, on voudrait faire de ce lieu une espèce d'espace aussi de sauvegarde. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire nos recherches, on avait vu tout un tas d'instruments dans des familles auxquelles on disait, voilà, c'est important que vous gardiez ça chez vous. Puis quand vous repassez 20 ans ou 30 ans après, vous vous rendez compte que quand les personnes qui étaient concernées par ces éléments de patrimoine ont disparu, sont partis, et bien tout a été vendu souvent au brocanteur, parfois même ça a été mis au fond d'une grange, ou même parfois au feu, d'après ce qu'on nous a raconté. Donc on voudrait que les gens prennent conscience de l'importance de ce patrimoine-là, le patrimoine musical, et qui confie donc à cet espace, à notre association, et du coup à l'espace, et du coup au conseil départemental, tout ce qu'ils peuvent avoir chez eux comme élément de cette histoire. Donc, des objets, comme des instruments de musique, et là, tout peut nous intéresser, même un bout de flûte, un bout de hautbois, un élément de percussion, de batterie, tout ce qu'on peut imaginer. Mais aussi des photos de musiciennes, des photos de noces, des photos de charivari, des photos de fêtes, des photos de balles, de carnaval, voilà, tout ce qui était
festif.
Faisait partie des régions au sens public. Pardon ?
Oui, je disais tout ce qui était festif et où finalement on jouait de la musique.
Et oui, parce que s'il n'y avait pas de réjouissance pour faire jouer les musiciens, ils n'auraient pas pu jouer. Mais ça peut être aussi des objets différentes, ça peut être aussi des sculptures, ça peut être aussi des affiches de fêtes, des programmes de fêtes, et puis aussi des témoignages, voilà, des témoignages. Et au-delà même de la musique, tout ce que les gens peuvent posséder de leur patrimoine culturel départemental, ça nous intéresse. Parce qu'on peut aussi venir les enregistrer, faire raconter leur histoire, et tout nous servira pour mettre dans ce musée. Ça sera un petit peu un lieu qui appartiendra à tout le monde, du coup.
Un lieu, d'archivage, c'est pas joli, mais en tout cas un lieu où on va pouvoir vraiment sauvegarder cette mémoire-là qui nous concerne tous.
Voilà, et en plus, où on veut mettre en valeur, du coup, la culture. Parce que pas avec les moyens modernes qui existent aujourd'hui, on va faire en sorte que tout soit au moins bilingue, c'est-à-dire en français et en occitan, peut-être dans notre langue, pour les personnes qui viennent de plus loin. Donc il y aura tout un système d'écoute, des panneaux, des vitrines. Il y aura tout un système d'écoute avec des sortes d'audio-guides où les gens pourront choisir la langue dans laquelle ils veulent que l'histoire leur soit racontée. Et même dans les panneaux écrits, il y aura automatiquement de l'occitan, qui est la langue de la région.
Eh bien, alors, c'est pour quand 2022, 2023, on se donne rendez-vous pour l'inauguration.
Voilà, je ne sais pas encore. Ça va, pour le moment, on est aux négociations. On a rencontré les mairies. Les mairies, en tout cas celle de la case, pour le moment, a pris une délibération pour mettre une partie du château à la disposition du projet. On est en période électorale, donc les choses vont lentement, puisque les élus ont d'autres cordes de violon à pincer pour le moment. Mais je pense que dès le mois de juillet, on va commencer à négocier, on va mettre en place, parce qu'il faut quand même trouver du financement, si la Talvero met à la disposition de la collectivité toutes ses collections. Il faudra quand même trouver des financements pour acheter des vitrines, pour acheter du matériel sonore, pour construire une belle scénographie. Parce que si on veut que le lieu soit visité, il faut qu'il soit beau, quoi. Alors déjà, le château est beau, mais il faut que ce qu'on va installer à l'intérieur soit digne vraiment d'un grand musée français, quoi. Voilà. Et puis autour, il faudra trouver aussi du financement pour faire vivre le musée, et qu'on puisse chaque année y organiser des concerts, des colloques, des rendez-vous, des conférences, faire venir des expositions d'autres musées, puisqu'on veut, on veut mettre ce musée en réseau avec d'autres musées consacrés aux instruments de musique dans la région. Il y en a au moins deux importants. Il y a la maison de la Cabrette à Cantoin, dans l'Aveyron, auquel on a participé aussi, puisqu'on leur a confié des instruments, des documents, etc. On a participé à l'élaboration et à l'extension de ce musée qui est très beau. Je vous conseille d'aller le voir. Donc, je conseille aux auditeurs. C'est sur l'Aubrac. C'est consacré donc à la cornemuse du centre de la France, à la Cabrette. Et on va aussi mettre l'espace de la case en réseau avec un musée qui se trouve dans les PO, donc dans les Pyrénées-Orientales, dans les pays catalans, qui se trouve à Serré et qu'on va, voilà, qu'on a aussi mis en place depuis quelque temps des relations importantes.
D'accord, mais c'est à découvrir. Et puis alors, si vous habitez la vallée du Gijou, ne soyez pas surpris si on tape à votre porte et que Daniel Lodo vient vous demander quelques renseignements. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie vraiment, monsieur Lodo, d'avoir été avec nous sur les ondes de CFM Lacône. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.